Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi 5 avril 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Je vous proposerai ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Merci de votre écoute. Iranien des Affaires étrangères a rencontré son homologue ouzbek. Le vaste assaut de la coalition saoudienne contre le sud du Yémen a été repoussé. Les agresseurs déplorent des dizaines de morts et de blessés dans leurs rangs. Plus de 100 personnes arrêtées et 10 policiers blessés lors de manifestations contre un projet de loi sur la criminalité à Londres. Et les forces de l'armée vénézuélienne sont en état d'alerte le long de la frontière séparant le Venezuela de la Colombie. Cette région reste le théâtre d'affrontements depuis le 21 mars. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a rencontré ce lundi 5 mars son homologue ouzbek, Abdulaziz Kamilov. L'histoire commune de l'Iran et de l'Ouzbékistan élargit le champ de l'amitié entre les deux nations. La République islamique d'Iran peut fournir une voie de transit pour l'Ouzbékistan vers les marchés mondiaux et les eaux libres, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères lors de son déplacement à Tashkent. Faisant référence à ses entretiens avec Abdulaziz Kamilov, son homologue ouzbek, cela dit, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Nous avons discuté des relations économiques, politiques, culturelles et du renforcement des relations entre l'Iran et l'Ouzbékistan, ainsi que de la coopération régionale. Nous avons également abordé la question de la paix en Afghanistan. Il existe différents domaines de coopération Téhéran-Tashkent. Notre très longue histoire commune élargit encore plus le champ de l'amitié entre les deux nations. Et j'espère que lors de la rencontre cet après-midi avec le président de la République de l'Ouzbékistan, M. Shavkat Mirziyoyev, nous élargirons davantage ces domaines de coopération. » A ajouté le chef de la diplomatie iranienne. Après avoir rencontré son homologue ouzbek le lundi matin, il a aussi remercié le gouvernement et le peuple ouzbek pour leur hospitalité et a félicité le peuple ouzbek à l'occasion de la fête de Nowruz. Lors de sa première tournée diplomatique en 1400, nouvel an iranien, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu en Asie centrale. Le développement des relations avec l'Asie centrale, une région aux multiples points communs civilisationnels, historiques et culturels, a toujours été l'une des principales priorités de la politique étrangère de la République islamique d'Iran. L'attaque menée dimanche 4 avril contre la base aérienne américaine à Balad véhicule d'importants messages à l'Irak et aux États-Unis, dont le troisième round du dialogue stratégique est prévu pour ce mercredi 7 avril. Il est temps que les Américains fassent leurs valises. En dépit de la loi ratifiée par le Parlement irakien pour le retrait des troupes US d'Irak, le peuple irakien n'a encore reçu aucun indice d'une démarche sérieuse de la part de la nouvelle administration américaine pour mettre fin à la présence militaire US sur ce territoire. En Irak, les convois aussi bien que les bases US sont prises presque quotidiennement pour cible par la résistance irakienne. Deux missiles ont été tirés dimanche 4 avril depuis la région d'Al-Joma à Diyala de la province de Salahitin. Ils ont touché une zone non loin de la base aérienne US Balad où se trouve le bureau du Global Holding Saliport spécialisé dans la logistique et la sécurité, a annoncé le communiqué du QG de gestion de crise irakien précisant que la compagnie avait la mission de maintenir les F-16 de la base. L'attaque du dimanche n'a laissé aucune perte, selon le communiqué du bureau de presse de sécurité irakienne. Elle revêt pourtant une importance toute particulière dans la mesure où elle avait été menée peu avant le dialogue stratégique Irak-USA qui porte sur la présence militaire US en Irak. Simultanément, des partis politiques, des députés et des groupes de résistance irakiens ont exigé le début du retrait américain, avertissant qu'au cas contraire, de telles attaques anti-USA s'intensifieraient. Le vaste assaut de la coalition menée par les mercenaires à la solde de Riyad contre le sud du Yémen a été repoussé. Les agresseurs déplorent des dizaines de morts et de blessés dans leurs rangs. Une source militaire yéménite a annoncé dimanche soir 4 avril aux journalistes de la chaîne d'information Al-Mayadin qu'une attaque avait été menée par les militaires mercenaires sous le commandement de l'Arabie Saoudite sur le front de Maris dans le nord de la province de Zalé au sud du Yémen. L'attaque a été repoussée par les forces conjointes yéménites armées à Ansarallah et a laissé des dizaines de morts et de blessés côté des mercenaires. La province de Zalé se situe à l'est de la province de Taiz, qui est l'un des plus importants fronts de conflit entre les Yéménites et les mercenaires de Riyad. Sachez également que dimanche 4 avril, l'unité d'artillerie de la coalition saoudienne a visé la ville frontalière de Minbah Asada, dans le nord du Yémen. Deux civils, dont une femme, ont été tués et 6 autres ont été blessés. La police de Londres a annoncé dimanche qu'une centaine de personnes avaient été arrêtées samedi dans le centre de Londres au cours de plusieurs manifestations contre le nouveau projet de loi sur la criminalité proposé par le gouvernement britannique. Un peu plus tôt dimanche, la police de Londres a également déclaré que 10 policiers avaient été légèrement blessés lors d'affrontements entre la police et les manifestants dans le centre de la ville. La capitale britannique a été envahie samedi par des milliers de manifestants venus participer à plusieurs manifestations simultanées. Beaucoup protestaient contre le nouveau projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination des peines et les tribunaux proposés par le gouvernement britannique. Si elle était adoptée, cette législation donnerait à la police d'Angleterre et du pays de Galles davantage de pouvoir pour encadrer les manifestations non violentes, y compris celles jugées bruyantes ou nuisibles, et permettrait d'imposer des amendes ou des peines de prison aux contrevenants. Des milliers de personnes ont pris part à la manifestation Kill Bill et ont défilé de Hyde Park à Westminster. Les manifestants sont passés devant le palais de Buckingham et se sont rendus sur la place du Parlement en face des deux chambres du Parlement britannique. Ces manifestations interviennent après que plusieurs autres manifestations contre le nouveau projet de loi se sont terminées dans la violence le mois dernier à Bristol, une grande ville du sud-ouest de l'Angleterre. Les mesures de restriction liées au COVID-19 ont depuis été assouplies et les manifestations sont désormais légales en Angleterre et au pays de Galles. Cependant, les organisateurs de manifestations doivent toujours soumettre une estimation des risques aux autorités et prendre des mesures pour limiter la transmission potentielle du virus, selon le journal The Guardian. L'Organisation des Nations Unies a appelé dimanche à des efforts conjoints pour éradiquer la menace que représente l'usage accru des engins explosifs en Somalie. Le directeur du programme du service de l'action anti-mine des Nations Unies en Somalie a déclaré que les engins explosifs touchaient majoritairement les civils et plus particulièrement les enfants. Ensemble, nous devons nous efforcer de renforcer le développement des capacités nationales de lutte anti-mine et continuer de soutenir la Somalie, garantissant ainsi la protection des civils et le développement économique et social, a indiqué ce responsable de l'ONU dans un communiqué conjoint publié à Mogadiscio à l'occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines et l'assistance à la lutte anti-mine. Selon les statistiques du programme de l'UMAS, programme du du service de l'action antimine des Nations Unies, on a comptabilisé 1140 victimes civiles d'engins explosifs improvisés en 2019 et seulement 454 en 2020. En outre, il y a eu 59 victimes civiles de restes explosifs de guerre en 2019 contre 53 en 2020. Les forces de l'armée vénézuélienne sont en état d'alerte le long de la frontière séparant le Venezuela de la Colombie. Cette région reste le théâtre d'affrontements depuis le 21 mars. Le commandement militaire du Venezuela a déclaré avoir pris le contrôle des villes de la Victoria et del Ripial, les principales scènes d'hostilité. Le commandement stratégique opérationnel des forces armées nationales bolivariennes, FANB, reste en état d'alerte à la frontière colombo-vénézuélienne, scène d'affrontement armé depuis plusieurs jours. La FANB continue de se déployer pour assurer la paix, la tranquillité et des patrouilles constantes dans les communautés de la Victoria, El Ripial et ses environs dans l'état d'Apure. Le ministre vénézuélien de la Défense, le général Vladimir Patrino López, a confirmé que le conflit dans la ville d'El Ripial, dans l'état d'Apure, avec des groupes de trafiquants de drogue soutenus par le gouvernement d'Ivan Duque, ne sont rien de plus que des stratégies pour intimider la population et faire du Venezuela un territoire sans loi, ce qui n'arrivera pas. Les affrontements qui ont éclaté le 21 mars sur la frontière colombo-vénézuélienne ont fait jusqu'ici 6 morts chez les militaires vénézuéliens et 9 morts chez les groupes armés colombiens. Au moins 32 personnes ont été également arrêtées. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. La marine pakistanaise accoste en Iran. La coalition maritime iranienne s'élargit. En décembre 2020, la flotte de guerre russe a fait son apparition éclair en océan Indien à l'invitation de l'Iran, qui venait de boucler une dizaine d'exercices navals, aériens et aérospatiaux d'une complexité inouïe en à peine une vingtaine de jours. Les deux marines ont mené des manœuvres défensives puis offensives sous les yeux ahuris d'un USS Navy qui, même en présence de l'USS Georgia, a pris la précaution de se replier dans le nord de l'océan Indien pour éviter des missiles antinavires de longue portée iraniens, d'une prévision hors pair et d'une portée de 1800 km. L'exercice naval s'est avéré si stratégique que l'Inde n'a pas pu s'empêcher d'y prendre part en y envoyant deux navires de guerre. Un pacte Varsovie-Bis. Le samedi 2 avril, la marine pakistanaise a accosté au port iranien Bandar Abbas pour un exercice conjoint de 4 jours. C'est une marine de mieux en mieux équipée par la Chine qui, vu ses projets d'investissement à Gwadar, livre régulièrement ses équipements navals les plus performants aux Pakistanais. D'ailleurs, la Chine a mis à l'eau en janvier les deux nouveaux navires de guerre, l'un pour sa propre marine et l'autre pour le Pakistan, soit le navire d'assaut amphibie type 065 et la frégate de classe 054AP pour la marine pakistanaise. Le chef de la marine pakistanaise a reconnu que le 054AP améliore considérablement la capacité de défense et de dissuasion maritime du Pakistan. Or, des exercices navals conjoints avec l'Iran prennent tout autre sens depuis l'annonce de la signature d'un pacte stratégique de 25 ans Iran-Chine. Iraniens et Pakistanais tiendront pour 4 jours des exercices hybrides des marines iraniennes et pakistanaises sur l'île de Larak, sur les rives du golfe Persique et dans le but d'échanger expériences, savoir-faire et renseignements et d'assurer la sécurité des lignes commerciales maritimes de la région. Les bâtiments présents seraient dotés de DSA, de missiles subsurface, entre autres. Le commandant de la première zone de la marine de l'armée iranienne, le contre-amiral Jafar Tazakor, est allé de son commentaire. Téhéran et Islamabad poursuivent leur coopération navale pour soutenir la sécurité maritime. L'Iran et le Pakistan entretiennent depuis longtemps une coopération maritime, mais la contextualisation est une nécessité, a déclaré Tazakor. D'autres navires rejoindront cette coalition qui a l'air de s'agrandir. La revue américaine National Interest, décrivant la capacité militaire de l'Iran, affirme dans un récent article qu'il est de plus en plus difficile pour la flotte américaine dans la région de faire face à l'Iran. D'où la décision du CENTCOM de déplacer l'arrière-base de ses forces non plus dans le golfe Persique, mais sur la côte ouest saoudienne. Maintenant, si ses capacités navales se combinent à celles de la Russie et de la Chine, il y aura un séisme géostratégique à affronter. Un pacte de Varsovie orientale propre à s'élargir au Pakistan, au Venezuela, voire à la Corée du Nord, et auquel finira par rejoindre la Turquie avec ou sans Erdogan. Cette coalition navale est pendant l'OTAN à cette différence près qu'elle compte dans ses rangs des puissances émergentes et que l'Iran, placé au cœur de toutes les voies maritimes et terrestres du monde, en est le noyau.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le et débat. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, c'est Hassan Nasrallah, a prononcé qui est un discours très important, des discours dans lequel il a en fait évoqué les dernières évolutions sur la scène internationale et les grandes nouvelles orientations de l'administration américaine. S'agissant en fait des désorientations de la nouvelle administration américaine, c'est Hassan Nasrallah a dit que voilà, la politique de l'administration Biden consiste à de se concentrer désormais sur la Chine et la Russie. À propos de l'Iran, c'est Hassan Nasrallah a souligné que l'Iran est sur le point de franchir l'étape de l'embargo et des sanctions, ce qu'il a refusé de donner sous les sanctions extrêmes et la menace quotidienne de guerre, l'Iran ne le donnera pas aujourd'hui, a martelé Hassan Nasrallah qui a conseillé en fait aux alliés des États-Unis dans la région de ne plus attendre les États-Unis ni le monde ni les évolutions et d'entreprendre des dialogues internes et régionaux pour régler nous-mêmes nos problèmes. Et s'agissant du deal du siècle, Hassan Nasrallah a dit que voilà, ce deal du siècle a été mis en échec grâce à la vaillante résistance du peuple palestinien. Et s'agissant de la proposition faite par les Saoudiens et les Américains au Yéménites, Saïd Hassan Nasrallah l'a qualifié d'imposture. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour à votre invité, c'est toujours un plaisir.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develet, c'est une analyste franco-syrienne qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. Bonjour à Monsieur Develet.
Merci beaucoup. Madame Midani, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Comment expliquez-vous ce récent discours de cet Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, s'il vous plaît?
En fait, son discours va tout à fait dans un sens. Comme d'habitude, d'ailleurs, il fait une analyse de la stratégie mondiale, et puis de l'évolution sur le terrain. En fait, ce dernier jour, il a fait plusieurs discours à plusieurs occasions, l'occasion du jour du martyr et l'occasion du décès, en fait, de l'imam Ahmad Zain. En fait, il a mis en avant, effectivement, le fait que, d'abord, les forces de l'axe de la résistance sont des forces montantes. Les forces américaines, les forces de l'hégémonisme mondial, qui sont les Américains, l'OTAN et leurs alliés, sont des forces descendantes, déclinantes. Et donc, ils conseillent à leurs alliés, dans la région, en fait, et au Liban, de ne pas attendre effectivement les évolutions et qu'il y ait vraiment un changement de situation mondiale, puisque le changement est déjà bel et bien amorcé. Et donc, il faut qu'ils tirent les conclusions des tendances et qu'aujourd'hui, il est important de revoir leur position et puis de se dépêcher de faire les... de construire un gouvernement et puis de se mettre à la reconstruction du Liban avec les alliés de l'avenir, les alliés de demain. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il a parlé effectivement de toutes les diversions qu'essayent de mener les pays occidentaux, notamment les pays américains, de l'OTAN et Israël. La diversion entre différentes obédiences musulmanes qu'ils n'ont jamais cessé d'essayer de créer des diversions entre les différentes obédiences, composantes, etc. de nos populations. Il est important d'en prendre conscience et de ne pas laisser faire. Hein. Et puis de voir que toutes ces divisions sont faites pour affaiblir nos pays et pour éviter qu'ils s'unissent et pour éviter qu'il y ait une véritable force arabe face à Israël. Et puis aussi, en fait, il a parlé des forces de l'avenir, que de toute façon, nous sommes... notre histoire vous a montré que de toute façon ce n'est pas le nombre et l'équipement qui fait gagner les combats, c'est plutôt la foi et la décision. Donc c'est une véritable décision politique et une détermination, la détermination des peuples à la résistance qui font les victoires et les succès. Donc, ça, c'est très important aussi que vous en teniez compte et que aujourd'hui, de vous dépêcher, de prendre le bon côté, en fait, il disait ça à toutes les forces en présence au Liban. Il faut savoir quand même qu'il y a des forces politiques libanaises qui sont pro-américaines et qui sont aussi pro-israéliennes et qui agissent depuis toujours, qui agissent contre l'indépendance du Liban. Donc tout ceci, c'est vraiment très très important. Il a parlé aussi de l'ensemble du conseil des imams des pays des musulmans, en fait, notamment le conseil, les imams sunnites qui ont joué un très grand rôle contre cette volonté de créer non seulement la discorde mais la fitna entre sunnites et chiites, entre chrétiens et musulmans, etc. Donc il a vraiment fait un grand éloge de l'imam Ahmad Zain et de l'imam Badreddin Hassoun et de l'imam en Syrie qui a été tué aussi en 2013. Donc toutes ces forces et toutes ces personnes loyales au pays, loyales à l'islam dans tous ces principes, bon, ils ont aidé à lutter et à résister contre ces forces de diversion. Il a aussi ajouté que de toute façon, ce qui est arrivé à la Syrie, et lui est arrivé parce que c'est un pays qui soutient la résistance palestinienne, qui soutient la résistance et qui soutient l'ensemble des pays arabes, des peuples arabes face à Israël, qui n'ont jamais accepté ni de reconnaître l'État d'occupation sioniste, ni d'accepter le fait accompli de l'occupation. C'est pour ça ce qui est arrivé à la Syrie. Et en fonction de sa position de résistance, de son soutien à la résistance palestinienne, libanaise, etc., mais aussi en fonction aussi de ses liens avec la révolution iranienne, avec l'Iran, l'Iran est sous embargo et persécuté par les Américains depuis la révolution de Ayatollah Khomeini. Tout ceci a été vraiment dans un discours très détaillé, je dirais, au niveau à la fois de la stratégie de la politique des forces occidentales et des forces mondiales, que de toute façon, aujourd'hui, les Américains sont beaucoup plus intéressés aussi par occuper la mer de Chine, etc. Et qu'il dit aux alliés des Américains, ils vont vous abandonner, comme ils ont abandonné les gens qui ne leur servent plus aussi. Rappelez-vous, le Shah d'Iran était de leur côté, mais en fait, quand il y a eu la révolution, ils l'ont même pas accepté comme réfugié politique chez eux. Donc, ils l'ont jeté comme un rien. Donc, ça vous arrivera à vous. Donc, tirez les leçons de l'histoire. Et puis, nos alliés, en fait, nous aident et sont complètement. Ils ne cherchent pas du tout à nous dominer, ils cherchent à nous aider, à nous mettre debout. Et c'est vrai, il est certain qu'aujourd'hui, nos forces, les forces de l'ensemble du front de la résistance, sont beaucoup plus importantes qu'elles n'ont jamais été. Et il n'y a pas lieu d'avoir ni d'accepter des conditions. Ni de baisser la garde. Et c'est Israël qui a toutes les raisons d'avoir peur, parce que c'est elle qui est faible, c'est elle qui est divisée, etc. Donc il a aussi
Merci beaucoup. Monsieur De Volet, votre lecture, s'il vous plaît, votre analyse à propos de ce discours de cet Hassan Nasrallah, s'il vous plaît.
Alors, de toute évidence, le discours du secrétaire général de la résistance libanaise était un discours, comme d'habitude, détaillé, complet, multidimensionnel, rassurant, il faut le souligner, et qui porte vers l'avenir. Parce qu'il faut parler de l'avenir maintenant, dans le contexte des relations internationales, de manière générale, et dans le contexte des relations régionales, du contexte régional. Et ce, après plus d'une décennie de tentatives de déstabilisation de tous les pays de la région. En fait, même 20 ans, depuis le 11 septembre. N'oublions pas le 11 septembre, c'est une date séminale. Le secrétaire général de la résistance libanaise a fait un bilan dans un premier temps où il a passé en revue tous les théâtres d'opération, que ce soit au Yémen, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, et il a remis, effectivement, recontextualisé ce qui semblait être présenté par les médias mainstream comme étant un conflit interconfessionnel, en fait, en tentative de création artificielle d'une fitna. C'est le mot, effectivement, qui doit être utilisé, de manière à diviser la région, au au service d'un projet colonial et impérialiste. Ce faisant, il a tenté de rassurer, au milieu de toutes les rumeurs qui circulent, l'opinion publique. En place, c'était un discours d'homme d'État. Il a pointé du doigt les grandes orientations, avec une insistance sur l'importance de rester, de garder le cap, pointant du doigt qu'effectivement, les ennemis de la région sont sur la pente déclinante, et que si cet état de fait est aujourd'hui souligné, ce n'est pas tant eu égard au fait qu'ils sont eux-mêmes, ces ennemis de la région, devenus faibles par la force des choses, mais parce que effectivement, la région a su rester, au travers de sa composante de la résistance, déterminée, patiente et coordonnée dans ses efforts. Donc c'était un discours dans ce sens qui s'inscrivait dans les discours précédents portant sur une réorientation géopolitique des pays de la région vers l'Est, parce que c'est quand même ça en ligne de fond, c'est qu'il faut retenir du discours, avec l'émergence d'un axe eurasiatique au-delà de l'axe de la résistance. L'axe de la résistance n'est qu'une composante d'un ensemble plus large, qui a vocation à créer un espace politico-économique qui permettra à la région non seulement prospérer économiquement et profiter de ses propres ressources pour financer son avenir, mais aussi d'un ordre géopolitique qui permettra de raffermir l'indépendance des États qui composeront ce nouvel ensemble. Donc, il a évoqué en cela la situation en Iran dans le contexte de l'accord stratégique signé entre la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine. Il a évoqué la puissance émergente du Front du Salut au Yémen, en laissant entendre que cette nouvelle composante de la résistance aurait un rôle probablement fondamental à jouer à l'avenir. Il a souligné l'importance des échanges bilatéraux, que ce soit entre le Liban et l'Irak, entre le Liban et la Syrie, sur des dossiers ponctuels, de façon à construire une dynamique qui puisse ensuite mener à une fluidité des échanges accrue. Et en ce sens, c'est un discours, encore une fois, rassurant, stable, cohérent avec tous les discours qu'il a prononcés auparavant. Et dans ce sens-là, c'est important de souligner le calme, le ton calme et le ton serein au milieu de toutes les rumeurs qui peuvent circuler de nos jours concernant la déstabilisation de la région et son avenir.
Madame Mehmidani, vous l'avez dit, Maître de Volley également vient de le souligner, c'est Hassan Nasrallah a parlé de cette de réorientation, si vous voulez, de politique, et surtout des pays de la région, vers l'Est. En quelque sorte, il a évoqué cette nouvelle réorientation aux politiques du monde, parce qu'il a souligné que les États-Unis se concentrent désormais sur la Chine et la Russie, et le Moyen-Orient n'est plus, selon Hassan Nasrallah, une première priorité pour la nouvelle administration américaine. Et c'est dans ce sens que Hassan Nasrallah a de qualifié d'imposture cette proposition faite par l'Arabie Saoudite aux Yéménites, en disant que les Yéménites ne vont pas se laisser duper par cette, si vous voulez, de soi-disant proposition saoudienne. Et c'est dans ce sens que Hassan Nasrallah a dit que voilà, il n'est pas question pour l'Iran de se laisser, si vous voulez, intimider par une politique de sanctions et de menaces. Et dans l'état actuel des choses, il n'est absolument pas question pour l'Iran de se soumettre, si vous voulez, à la volonté des États-Unis et de leurs alliés régionaux. Et c'est dans ce sens que Hassan Nasrallah, en s'adressant aux alliés régionaux des États-Unis, a dit qu'il ne faut pas, en fait, que vous perdiez votre temps, Madame Mehmidani.
Exactement. Exactement. En effet, alors la proposition, en fait, il a bien dit que de toute façon la proposition saoudienne est une véritable imposture, parce que de toute façon ils ne proposent rien, ils veulent juste cesser un cessez-le-feu pour geler les opérations, pour reprendre par la paix ce qu'ils n'ont jamais pu reprendre par la guerre, donc surtout casser ou soumettre la souveraineté du Yémen qui est triomphant et qui, malgré toute cette guerre de destruction intense depuis 2015, le Yémen arrive à non seulement triompher, mais arrive à vaincre, à aller jusqu'au fin fond de l'Arabie Saoudite et des sources importantes de ravitaillement de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il a invité effectivement... Il a mis l'accent sur le fait que tous ces pays qui ont couru pour construire des relations d'amitié avec Israël, ils sont complètement mal aujourd'hui, puisque de toute façon la construction était basée sur trois côtés du triangle, comme il disait. C'est sur Trump, et Trump n'est plus au pouvoir aux États-Unis, sur Netanyahou, et qui est dans l'entité d'occupation et qui est en train de chavirer de tous les côtés, et fort probablement il est en grande difficulté, mais il ne voulait rien prédire de son avenir. Et puis le troisième, c'était sur Mohammed bin Salman, qui est lui aussi en grande difficulté, y compris par ses alliés américains. Donc Biden n'arrête pas de déclarer que de toute façon Mohammed bin Salman est impliqué dans différentes histoires, et qu'aujourd'hui donc il n'est plus l'allié qu'il faut. Ça, c'est un côté. L'autre côté, en disant aussi de toute façon nous sommes forts et nous avons nous en tant que pays arabe, nous avons tous les mots de la région, nous avons tous les moyens d'être très forts, nous avons une complémentarité économique, nous avons une complémentarité géographique, nous avons à aller vers nos voisins, à nous ouvrir vers nos voisins de la région, construire des relations à la fois économiques, politiques, etc., et aussi de construction commune, etc. Ça nous permettra effectivement de gagner en matière d'économie et de résister aussi à toutes ces forces hégémoniques, mais aussi ça nous permettra de complémenter nos économies et de résister à toutes les agressions qui nous viennent de cet axe de la de l'hégémonisme.
Merci beaucoup, monsieur Devolet, maître Devolet. Il nous reste une minute au maximum, 2 minutes devant nous pour cette émission. Et je vous remercie de boucler notre débat d'aujourd'hui.
Bien, écoutez, il faut garder le cap, hein. C'est ce qui ressort du discours plus qu'autre chose. La situation globale et dans toutes ses composantes suit son cours. C'est un processus qui prend du temps, parce qu'on parle de nations, on parle de blocs, on parle d'une alternance en termes d'arrangements géostratégiques et de relations internationales au sens large, certainement sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais que le chemin reste long, qu'il faut rester vigilant et surtout ne pas agir à l'emporte-pièce. Analyser la situation de manière rationnelle, en restant fidèle aux principes qui ont fait que aujourd'hui l'axe de l'hégémonie effectivement est sur le recul, mais que malgré tout il faut garder à l'esprit que si je puis dire, la bête n'est jamais aussi dangereuse que lorsqu'elle est mortellement blessée.
Maître Arnaud Devolet, juriste français spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission, le débat depuis Damas, capitale syrienne. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssa Armidani. Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne, qui a été avec moi en ligne pour cette émission depuis Paris. Et c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir. Amis, à très bientôt.
Iran, pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Chers amis auditeurs, dès cette semaine, nous vous présenterons Ispahan, une autre ancienne ville de la terre des Perses, dont le chef-lieu porte le même nom. Le temps qu'Ispahan a été tout au long de l'histoire le berceau de diverses civilisations et gouvernements et qu'elle a connu nombre d'événements. Située à 340 km au-dessus de la capitale Téhéran, la province d'Ispahan couvre une superficie d'environ 106 000 km². Ispahan a été la capitale de l'Empire perse sous la dynastie des Safavides entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. La ville, bien irriguée, est noyée de verdure et offre un contraste bien particulier avec les étendues désertiques qui l'entourent. Les travaux entrepris sous le Shah Abbas, faisant d'Ispahan une vitrine de l'architecture et de l'art safavite extrêmement raffinée, ainsi que les nombreux monuments islamiques construits entre le XIe et le XIXe siècle, font d'Ispahan un des joyeux du Moyen-Orient. Le nom de la ville, en vieux perse, était Aspadana, devenu Spahan ou Ispahan en moyen perse, puis Esfahan, après l'arrivée de l'islam. L'alphabet arabe ne possédant pas le nom P, le nom de la ville est devenu Esfahan après l'avènement de l'islam en Iran en 651. On trouve également des transcriptions telles qu'Isfahan ou Ispahan, qui ont pour origine des accents différents. Esfahan, Nesfejahan, est un jeu de mots sur son nom, qui dit que cette ville est la moitié du monde. Des monuments se distinguant par leur architecture exceptionnelle les ont fait être répertoriés parmi les plus importantes œuvres architecturales du monde. Entre autres, la place Nakhchivan est classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1988. Des mosquées, des palais historiques, des jardins magnifiques, des temples du feu, des caravansérails historiques, des maisons et des édifices anciens, ainsi que des bazars, attirent depuis toujours les touristes iraniens et étrangers. Ispahan est situé dans le centre de l'Iran, au cœur du plateau iranien, à 1574 mètres d'altitude, à l'est de la chaîne du Zagros. Ispahan a été fondé dans la plaine du Zayanderut, dont le nom signifie « rivière qui donne la vie au bord de ses rives »,
Ce site est une oasis au milieu de l'aride plateau iranien, à 340 km au sud de Téhéran. Isfahan est situé à la croisée des routes qui traversent l'Iran du nord au sud ou d'est en ouest sur les routes commerciales entre la Chine et l'Empire ottoman et entre le golfe Persique et la Russie. Cette position stratégique, économiquement parlant, la fertilité des terres entourant la ville, le climat rendu plus frais par l'altitude, ainsi que la présence d'eau en abondance dans un pays aride, ont été des éléments déterminants pour le développement et également pour le maintien de cette ville en tant que centre urbain qui a survécu à des cycles de prospérité et de déclin. Le climat d'Ispahan et de la région qui l'entoure est semi-désertique, avec une période de sécheresse s'étendant d'avril à novembre. Les précipitations moyennes annuelles sont de 130 mm, la plupart ayant lieu durant les mois d'hiver entre décembre et avril sous forme de neige ou de pluie. Durant l'été, il n'y a aucune précipitation. Isfahan se situe au carrefour des axes septentrionaux et méridionaux. Grâce à cette situation stratégique, elle bénéficie d'importantes potentialités industrielles qui l'ont transformée en l'un des plus importants pôles industriels de l'Iran, faisant même de cette province la deuxième province industrielle de l'Iran. Elle compte un grand nombre d'usines, une grande aciérie, des cimenteries, des usines sucrières, une raffinerie de pétrole et des industries pétrochimiques et de la défense. Depuis les années 1990 et la création d'une industrie sidérurgique importante en Iran, dans le cadre d'une nouvelle stratégie d'industrialisation nationale, Isfahan accueille une industrie de l'acier parmi les plus importantes d'Iran, Mobarakeh, dans la province d'Isfahan et à Ahvaz. Outre l'industrie, Isfahan est également l'un des importants centres agricoles, irrigué par la rivière Zayanderud, dont la source vient de Kuhrang, dans la province de Chaharmahal et Bakhtiari, Isfahan est doté d'un grand nombre de vergers et de champs de culture. Les produits agricoles de cette province sont entre autres les céréales, le riz, le tabac, le safran, le raisin, le melon d'eau, la pastèque, la pêche, la grenade, la pomme, la cerise et le coing. Ces quatre derniers fruits comptent parmi les produits exportés. Isfahan abrite diverses ethnies. La majorité de la population est persanophone. Il y a cependant des Bakhtiari et des Azeri qui parlent le lori et l'azeri. Des minorités religieuses, telles que les juifs, les chrétiens et les zoroastriens, habitent aussi dans cette province. Vu son climat agréable et ses vertes plaines, Isfahan accueille chaque année, pendant 4 à 5 mois, une foule de nomades des confédérations de Bakhtiari et de Rachraï qui viennent dresser leurs tentes dans les vertes plaines de cette province. On peut apercevoir chaque année, dès le printemps et presque jusqu'à la fin de l'été, des troupeaux qui broutent dans les vertes et belles prairies de cette province. La nature généreuse, les plaines et les montagnes impressionnantes d'Isfahan créent un endroit propice pour la faune animale. C'est en effet un vrai écosystème naturel. Trois parcs naturels pour animaux se trouvent dans cette province. Le parc naturel de Motay, dans une région semi-humide tempérée, avec des hivers froids, sur un terrain d'une superficie d'environ 220 000 hectares, abrite notamment des chevreuils. On y trouve aussi d'autres animaux et oiseaux rapaces rares. Le parc naturel Ramachlo, dans la région semi-humide tempérée, avec des hivers froids, couvrant une superficie d'environ 50 000 hectares, où vivent des béliers et des brebis, sans oublier des oiseaux tels que le faucon et le vautour, et enfin le parc naturel Kolarazi, dans une région sèche et chaude avec des hivers assez froids. Ce parc s'étend sur environ 50 000 hectares et abrite des guépards, des chèvres et des antilopes. Chers auditeurs, nous voici au terme de cette émission. La semaine prochaine, nous vous parlerons de l'histoire et des monuments historiques d'Ispahan. D'ici là, nous vous confions à la garde de Dieu.
Thank you.